France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Près de 3500 morts, 10 000 arrestations. Le bain de sang se confirme en Iran où le pouvoir accentue sa répression. Malgré les menaces d'intervention américaine, l'option militaire est toujours sur la table, surtout si le régime commence à exécuter des manifestants interpellés. Page spéciale dans ce journal avec Siavosh Ghazi à Téhéran et Claude Guibal dans ce studio. Le Danemark renforce sa présence militaire au Groenland avec des avions et des navires. Donald Trump a répété aujourd'hui que les États-Unis avaient un besoin vital du territoire autonome danois. En France, l'éditeur Hachette rappelle en urgence des manuels de révision pour le bac. On pouvait y lire que des colons juifs avaient été tués par le Hamas le 7 octobre 2023 en Israël. Quand l'intelligence artificielle enrichit l'expérience des visiteurs dans les musées et les monuments, c'est le dossier de ce journal avec Marion Ferrer. Le régime iranien est-il en train de reprendre la main face aux centaines de milliers de manifestants qui défient le pouvoir des mollahs? La répression s'est intensifiée depuis dimanche. L'ONG Iran Human Rights, qui documente les crimes du régime, avance ce soir le chiffre de 3248 morts parmi les manifestants. 10 000 personnes auraient été arrêtées depuis le début du mouvement fin décembre. Et l'un de ses opposants interpellés pourrait être pendu dans les prochaines heures, malgré les menaces de Donald Trump d'agir de manière très forte si l'Iran devait exécuter des manifestants. Siavosh Ghazi est le correspondant de Radio France à Téhéran et il nous raconte comment le pouvoir repère et arrête les manifestants.
J'ai eu plusieurs témoignages de personnes qui ont reçu des SMS lorsqu'ils participaient à des manifestations, des SMS qui disaient « Vous êtes dans un lieu où il y a actuellement des troubles, quittez immédiatement ce lieu, sinon vous serez arrêté. » Donc une localisation des personnes grâce au téléphone portable. Du coup, un certain nombre de manifestants, les jours suivants, n'ont pas emmené avec eux le téléphone portable pour ne pas être localisés et identifiés. Et les autorités elles-mêmes ont affirmé donc via les médias officiels que les manifestants pouvaient être identifiés par les caméras de surveillance, y compris lorsque les manifestants portaient donc des masques sur le visage, et donc il y avait moyen de les identifier. Donc cela est possible, et en tout cas de sources certaines, je sais que des manifestants ont été donc arrêtés par des SMS qui leur demandaient de quitter les lieux des manifestations.
Le témoignage de Siavosh Ghazi, correspondant à Téhéran, interrogé par Valérie Crova. Autre signe d'une reprise en main par le pouvoir, au moins dans les discours, le régime des mollahs se dit prêt à riposter à toute intervention militaire américaine, car à la Maison-Blanche, l'option militaire est toujours à l'étude. Une liste d'une cinquantaine de cibles a été transmise à Donald Trump avec plusieurs scénarios d'attaque. Claude Guibal, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, quel est aujourd'hui le dispositif militaire américain dans la région?
Alors, en temps normal, les États-Unis déploient entre 40 000 et 50 000 soldats dans tout le Proche et Moyen-Orient. Ils sont répartis, ces soldats, sur un assez large réseau de bases militaires au Qatar, en Irak, aux Émirats, en Arabie Saoudite, mais aussi Koweït, Bahreïn, la Jordanie et Djibouti. En revanche, il n'y a aucun porte-avions américain dans cette zone aujourd'hui. Le plus proche est à plus de 1000 km. Il faudrait environ une semaine à 10 jours pour qu'il arrive sur place. La conséquence immédiate, c'est que si une opération contre l'Iran devait être lancée, elle passerait d'abord par des bases terrestres avec des frappes aériennes, des missiles de croisière, des bombardiers longue portée, des bases qui sont donc très exposées. Et une partie du personnel de la base américaine d'Al Udeid au Qatar vient d'ailleurs d'être évacuée. Et ça, c'est pas un hasard, puisque cette base, qui est à environ 200 km des côtes iraniennes, juste de l'autre côté du Golfe, eh bien, elle avait été visée par des missiles iraniens l'été dernier, pendant la guerre entre Israël et l'Iran, juste après le bombardement du site nucléaire de Fordo par les États-Unis. Et cette base, c'est vraiment un symbole. Elle accueille d'ordinaire 10 000 personnes. Et surtout, c'est le QG du CENTCOM, qui est le commandement des forces américaines au Moyen-Orient, avec tout ce qui va avec, les forces spéciales, les moyens aériens prépositionnés. C'est aussi, à Al Udeid, le symbole du partenariat militaire de Washington avec les États de la région qui hébergent ces bases. Or, toute opération américaine impliquerait justement l'autorisation de ces pays. Et c'est une question extrêmement sensible, évidemment, vu le contexte pour ces États.
Merci Claude Guibal de la rédaction internationale de Radio France. Je reviens juste un instant sur le bilan de la répression en Iran. Le chiffre avancé par l'ONG Iran Human Rights était très exactement de 3428 manifestants tués depuis la répression, depuis le début du mouvement entamé à la fin décembre contre le régime des Mollahs en Iran. Face à la convoitise de Donald Trump, le Danemark renforce dès aujourd'hui sa présence militaire au Groenland. Un déploiement d'avions, de navires et de soldats, y compris ceux des alliés de l'OTAN, précise le ministère danois de la Défense. Une annonce qui intervient quelques heures avant une rencontre sous haute tension à Washington. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio doit recevoir ce soir ses homologues danois et groenlandaises. Donald Trump a répété aujourd'hui que les États-Unis avaient un besoin vital du Groenland pour le Dôme d'Or, le projet américain de bouclier antimissile. Au Groenland, ce sont les appétits miniers du locataire de la Maison-Blanche qui effraient les écologistes, car le sous-sol du territoire autonome danois regorge de minerais rares. Ajra Mohamad, vous êtes notre envoyé spécial à Nuuk, la capitale du Groenland, et vous avez rencontré un militant qui redoute le pire avec Donald Trump.
Jens Irak Poulsen dirige une ONG dédiée à la protection des océans au Groenland. Voir sa terre natale être dirigée par Donald Trump, ce serait tout simplement une catastrophe, dit-il.
Depuis qu'il est à son poste, il a retiré son pays de tous les accords sur la biodiversité, sur les océans, des accords de Paris aussi, sur le climat. Nous sommes très inquiets.
D'autant qu'il est témoin, jour après jour, des effets du changement climatique dans l'Arctique.
Là, nous sommes à Nuuk. Toute la neige que vous voyez, en réalité, c'est très peu. Il devrait y en avoir beaucoup plus. Il devrait faire beaucoup plus froid. On est entre 10 et 15 degrés de plus que la moyenne. J'ai du mal à réaliser.
Comme beaucoup de militants écologistes, Jens Irak Poulsen est persuadé que Donald Trump convoite surtout les richesses minières de l'île. Il n'a pas du tout envie qu'on lui donne l'occasion de s'en saisir.
On parle de graphite, de zinc, d'or, d'uranium, mais ce ne sont pas des ressources vivantes comme le poisson qui peut se reproduire. Si vous les déterrez, c'est fini, ça disparaît. Donc c'est juste pour un bénéfice économique à court terme. Dans le monde occidental, la logique tourne autour de l'argent.
Mais pour les Groenlandais, c'est la nature avant tout.
Ajra Mohamad, depuis Nuuk, la capitale du Groenland. Les menaces de Donald Trump sur le Groenland doivent être prises très au sérieux, affirme Sébastien Lecornu. La France, qui est dans une pleine solidarité avec le Danemark et les autorités légitimes groenlandaises, ajoute le Premier ministre français. Le groupe Hachette a retiré de la vente aujourd'hui plusieurs manuels de révision du bac, des ouvrages dans lesquels les victimes des massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre 2023 en Israël sont qualifiées de colons juifs. Intolérable pour Emmanuel Macron qui accuse ces manuels de falsifier les faits. Et face au tollé, Hachette a rappelé en urgence les exemplaires encore en circulation. Noémie Bonin.
Trois ouvrages de révision sont concernés, de la série Objectif Bac. Alors ce ne sont pas des manuels scolaires distribués dans les classes, mais des livres que les lycéens de terminale peuvent acheter pour travailler chez eux. Deux datent de 2024, un autre de 2025. Les termes problématiques ont été relevés par la LICRA hier soir. Dans le chapitre sur les attentats du 7 octobre 2023 menés par le Hamas, on parle de la mort de 1200 colons juifs. Sauf que ces victimes, on le sait, étaient en majorité des habitants de kibboutz et des participants à un festival de musique, pas des colons donc. Emmanuel Macron évoque un relativisme intolérable et rappelle que le révisionnisme n'a pas sa place. Le ministre de l'Éducation nationale dénonce, lui, des faits graves et inacceptables. La maison d'édition Hachette reconnaît un contenu erroné, rappelle les ouvrages concernés dès aujourd'hui et présente ses excuses. Quelques milliers d'exemplaires ont été vendus, selon elle. Une enquête interne est ouverte pour comprendre comment une telle erreur a pu passer au travers des relectures habituelles avant toute parution.
Et de son côté, le grand rabbin de France, Haïm Korsia, dénonce, je cite, le militantisme révisionniste de l'auteur du manuel et l'endoctrinement passif des relecteurs. Un toit pour les enfants, c'était le mot d'ordre d'une manifestation aujourd'hui à Lyon devant la préfecture du Rhône. Les autorités préfectorales ont reçu une délégation de familles à la rue. À leur côté, le collectif Jamais sans toit, qui a occupé la semaine dernière des préfabriqués pour y loger 72 enfants et leurs parents. La chute des températures rendait indispensable cette action, estime le collectif. Le reportage à Lyon de Mathilde Imberti.
Cette maman, arrivée en France il y a un an et demi, dort habituellement dans l'école de ses enfants. Le temps des vacances, la ville a payé l'hôtel aux familles. Mais à la rentrée début janvier, elle s'est retrouvée sans solution, raconte-t-elle.
Aucune solution, on a appelé le 115, j'ai dormi là-bas au 115 un jour. Et les autres jours, toujours la même réponse, il n'y a pas de place, il faut rappeler plus tard, il faut comme ça.
La préfecture a pourtant déclenché le plan grand froid, ouvert un gymnase, ce qui n'a pas suffi d'après le collectif Jamais sans toit, représenté ici par Juliette Murtin. Une enseignante.
En moyenne, sur toutes les nuits du plan grand froid, on a eu entre 2 et 4 familles qui réussissaient à chaque fois à intégrer le gymnase et toutes les autres, elles restaient à la rue alors qu'il faisait moins 7 dehors. Donc effectivement, on a pris la décision de changer de stratégie. On est sur des occupations d'écoles qui durent depuis très longtemps. On a décidé de déplacer toutes les familles qui étaient dans les écoles vers un nouveau site.
En l'occurrence, des préfabriqués au sein d'un parc. 29 familles dorment depuis vendredi, soit 72 enfants, dont cette jeune élève de 10 ans.
Bah, c'est bien à l'intérieur. Mais on a besoin d'un logement comme tous les autres, juste pour nous.
La ville autorise l'occupation de ces locaux jusqu'à la fin de la trêve hivernale. Jamais sans toit n'a pas obtenu de place pérenne pour les familles. C'était l'objet d'une réunion en préfecture cet après-midi.
Mathilde Imberti à Lyon. Pas de surprise, tout à l'heure à l'Assemblée, les députés ont rejeté la motion de censure de la France insoumise contre le Mercosur, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et plusieurs pays latino-américains. 256 députés ont voté cette censure, il en fallait 288 pour obtenir la majorité. L'Assemblée vient de se prononcer sur une deuxième motion de censure, cette fois présentée par le Rassemblement national, toujours contre le Mercosur. Et les résultats viennent de tomber, cette motion est rejetée puisque seuls 142 députés ont voté le texte porté par le Rassemblement national. Dans un contexte budgétaire contraint, l'assurance maladie met en garde contre l'explosion des coûts des médicaments innovants. Il faut savoir qu'en 2015, un seul médicament dépassait les 100 000 euros pour le traitement annuel d'un patient. 10 ans plus tard, il y en a 21. Tara Schlegel, bonsoir.
Bonsoir.
Si la couverture médicale reste très bonne en France, cette envolée des coûts pour les médicaments innovants pèse sur le système de santé.
Avec 27 milliards d'euros réellement dépensés en 2024, les remboursements sont dynamiques, plus 7% par an. En moyenne, la Sécu en France rembourse 41 boîtes de médicaments par assuré. Chez nous, le reste à charge, vous l'avez dit, est faible, 12%, alors que les malades payent en moyenne un tiers de leur facture en pharmacie dans des pays comme l'Espagne ou l'Angleterre. Néanmoins, des traitements innovants sont très coûteux. Ils représentent 0,5% du volume, mais 33% des dépenses. Cela dit, il n'est pas question de les rationner, précise Thomas Fatoum, le directeur général de l'assurance maladie.
La part des anticancéreux, la part des médicaments, par exemple sur la mycobucidose, peuvent représenter des coûts importants, mais que l'assurance maladie finance, puisque ça c'est vraiment le message qu'on veut porter aujourd'hui. L'assurance maladie accompagne les patients dans l'accès aux médicaments, les médicaments, je dirais entre guillemets, de tous les jours, mais aussi les médicaments les plus coûteux, qui peuvent parfois représenter 100 000, 200 000, 300 000 euros par traitement. Ça fait partie des missions de l'assurance maladie.
Ce qui n'empêche pas des négociations avec les laboratoires pour tenter de maîtriser les prix, ni un travail sur la pertinence des prescriptions. Par exemple, l'association antidouleur à base d'opioïdes comme Tramadol plus Doliprane était dans le top des médicaments les plus vendus. Désormais, ce n'est plus le cas. Dr Kelly est responsable du département des produits de santé.
La NSM a demandé à ce que ce médicament soit prescrit uniquement sur des ordonnances sécurisées. Ensuite, on a visité beaucoup de médecins, on a fait beaucoup de communications sur les risques. On a aussi des entretiens pharmaceutiques dédiés sur l'opioïde au moment où le patient arrive pour une seconde délivrance. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau, qui est lié à l'avenant 2 de la convention avec les pharmaciens. Et l'ensemble explique en fait la sortie du top de cette association-là.
Quant au Doliprane seul, il reste, Stanislas, le médicament remboursé le plus vendu en France.
Tara Schlegel, spécialiste santé à la rédaction de France Culture. Le dossier de ce journal est consacré ce soir à l'intelligence artificielle au service des musées et monuments. Il en a été question ces jours-ci au Museum Connections, le salon professionnel international qui ferme ses portes ce soir à Paris. Les musées et monuments nationaux français attirent toujours plus de monde. 9 millions pour le Louvre l'an dernier, 8,4 millions pour le domaine du château de Versailles. Et pour améliorer l'expérience des visiteurs, l'IA ouvre de nouvelles perspectives. Marion Ferrer, vous avez testé quelques-unes des solutions présentées au salon.
Et certaines de ces solutions développées avec l'aide de l'intelligence artificielle sont déjà déployées. C'est le cas d'Ask Mona qu'on peut retrouver au château de Versailles depuis le mois de juin dernier. Ce dispositif est directement disponible sur votre téléphone portable et il permet de discuter, d'échanger avec des œuvres.
Là, je suis dans les jardins du château de Versailles. J'ai deux façons de le faire. Soit je prends une photo directement l'œuvre, soit je clique sur le bouton qui m'est proposé. On va parler à la tonne, si vous voulez, le bassin de la tonne.
Bonjour à toi, visiteur. Que souhaites-tu savoir sur moi ?
Valentin Schmitt est le directeur général d'Ask Mona.
Bonjour la tonne, je voudrais savoir pourquoi tu es tourné de ce côté-là. Pourquoi tu ne regardes pas le palais de Versailles, mais pourquoi tu regardes les jardins ?
Bonne question. Et la réponse est simple, parce que je symbolise la protection divine d'Apollon.
Et l'échange s'adapte au profil des visiteurs.
C'est très personnalisé, parce que les visiteurs vont s'adresser à une œuvre et l'œuvre va lui répondre en fonction du niveau de dialogue ou du niveau de langue du visiteur. Par exemple, un enfant qui va poser une question va avoir des réponses un peu plus simplifiées qu'un adulte qui va en poser, un spécialiste aura des réponses plus pointues qu'un néophyte.
Et ces contenus sont en revanche soumis à la validation des conservateurs de chaque musée afin de s'assurer de leur véracité. Impossible donc de piéger l'intelligence artificielle.
J'aimerais que tu me dises si le Paris Saint-Germain va gagner la Ligue des Champions.
Je suis ici pour parler de mon bassin, mes enfants et la symbolique de notre œuvre à Versailles.
Une information sécurisée, ce qui est très important pour les institutions culturelles avec lesquelles on travaille, mais ce qui est aussi très important pour les visiteurs.
200 établissements culturels à travers le monde proposent déjà Ask Mona.
Le musée d'Orsay, le centre Pompidou, le musée national des beaux-arts de Québec, le Colisée à Rome.
Un bon moyen de moderniser l'expérience des visiteurs.
On a 5 fois plus d'utilisateurs que les audioguides traditionnels, 8 fois plus d'utilisation que des applications de musée. On a vraiment un usage très massif. De par sa simplicité, il n'y a pas de téléchargement, et de par son interactivité. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que ça parle plein de langues, on parle 52 langues, donc c'est très international par défaut, on peut vraiment parler dans n'importe quel type de langue. C'est ça aussi notre volonté, c'est de créer des visites qui soient vraiment interactives, dans lesquelles le visiteur est acteur de sa visite et pas simplement un spectateur passif.
Un succès également confirmé par la direction du château de Versailles, qui comptabilise plus de 23 000 utilisateurs entre juin et novembre dernier. Un temps d'écoute rapide, 6 minutes en moyenne, qui s'adapte aux préférences de chacun. Et depuis, d'autres start-up se sont également lancées, comme Pikigo. Grâce à l'application, les touristes peuvent scanner les œuvres et en fonction des intérêts qu'ils ont renseignés, le contenu évolue. Dina Chevènement en est la fondatrice.
Il y a tout un paramétrage, vous choisissez votre profil de guide, amateur d'art, anecdote, guide pour ados, guide en famille. Et ensuite, vous choisissez votre profil de visiteur, c'est-à-dire vos centres d'intérêt, l'histoire, l'architecture, etc.
Une technique plus ludique qui permet d'intéresser petits et grands.
Aujourd'hui, un ado ou un amateur de l'art ne va pas du tout avoir envie qu'on lui raconte la même histoire.
Et de quoi rendre l'audioguide classique un peu obsolète.
L'audioguide a pour objectif d'être extrêmement consensuel, donc malheureusement pas adapté à tout le monde. Donc on se lasse très rapidement. Là, l'idée justement, c'est d'avoir un audioguide qui soit totalement adapté à ce qu'on a envie de vivre et que donc ça devienne des expériences qui sont totalement mémorables.
Là aussi, l'intégralité du contenu proposé aux visiteurs est écrit et validé par les conservateurs des musées. L'idée étant bien de vivre l'histoire autrement et non de la modifier.
L'intelligence artificielle au service des musées, un dossier signé Marion Ferrer. Cette dernière information dans l'actualité des médias, l'animateur Jean-Marc Morandini va rester à l'antenne de CNews et cela malgré la décision de la Cour de cassation qui a rendu définitive aujourd'hui sa condamnation pour corruption de mineurs à 2 ans de prison avec sursis. Jean-Marc Morandini envisage de saisir la justice européenne. Il continue son combat pour la justice et il reste à l'antenne sur CNews, indique la chaîne dans une déclaration transmise à l'AFP, l'agence France Presse. Un mot du temps, demain, le département du Finistère en vigilance orange, pluie, inondation, une nouvelle perturbation pluvieuse arrive sur la Bretagne avant de gagner la Normandie, ciel de pluie également de l'Aquitaine aux Ardennes. Ailleurs, un temps plus calme, demain matin, il fera entre 3 et 8 degrés en général. L'après-midi, le thermomètre oscillera entre 9 et 15 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Alison Vicrobeck.